première exigence de la métaphysique, c'est par le point de vue de la finalité. Si je ne fais pas de métaphysique, mon intelligence s'endort. Mon intelligence, alors, est saisie par l'imaginaire et ne dépasse plus l'imaginaire. Et je me sauve par la causalité exemplaire. J'étouffe la finalité. Il y a combien d'hommes qui ont étouffé la finalité? Parce qu'au fond, la culture que nous recevons dans les pays dissivilisés est une culture qui n'est pas entièrement humaine. C'est une culture à l'égard de l'efficacité ou à l'égard du plaisir. Les deux grandes tentations, toujours. Alors, dans ces conditions-là, l'efficacité et le plaisir, la métaphysique n'a rien à voir. Si vous avez pour vous-même une éducation faite par l'efficacité ou une éducation faite pour l'hédonisme, la métaphysique n'a rien à voir. Ça serait très intéressant du reste de voir historiquement, de fait, c'est ce qui s'est passé. C'est parce que l'efficacité, au point de vue politique, est devenue la clé de voûte. C'est l'efficacité qui commande la politique. Donc, qui commande un troupeau. Quand on commande un troupeau, on doit faire qu'il n'y en ait aucun qui soit écrasé. Le nombre joue la mesure. Il n'y a plus finalité. Il faut bien voir, hein, ça, je crois que c'est très important d'arriver progressivement à découvrir la finalité de notre intelligence, c'est-à-dire notre finalité personnelle et notre finalité naturelle. Si je suis devant une finalité naturelle, pas de métaphysique, surtout. Parce que la métaphysique vous donne un sens de la personne. Donc, le troupeau, c'est fini. C'est embêtant. La nature, elle est guerrière. Ça va. Alors, ce que je vous ai dit hier, c'est très important. Nous faisons de la métaphysique, nous sommes chrétiens. De fait, la métaphysique, pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, c'est plus délicat. Mais pour le chrétien, la métaphysique, je dirais, est obligatoire. Si vous niez la métaphysique, vous êtes en dehors de la perspective catholique dans toute sa force. Vous vous mettez à côté. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le point de vue de la causalité finale. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes religieux. Donc, en tant que chrétien, en tant que religieux, voyons la nécessité d'une métaphysique. C'est pas suffisant, mais c'est quand même très important de comprendre que faire de la métaphysique n'est pas en dehors de notre vie catholique. Je dis bien exprès catholique. En dehors de notre vie chrétienne, alors on discuterait parce qu'un protestant veut être chrétien. Mais un protestant n'est pas chrétien jusqu'au bout. Il s'arrête. Avant, c'est trop difficile. Et c'est l'obéissance à Rome qui est trop difficile. Et je comprends que c'est pas commode. Hein, parce qu'on nous oblige une obéissance divine à travers des hommes. Et alors, quand il s'agit uniquement d'un homme personnel, ça va, c'est pas trop lourd. La direction spirituelle, c'est un homme personnel. Mais quand il s'agit d'une collectivité, oh, c'est différent. Le Saint-Esprit ne peut pas agir sur une communauté, sur une communauté, avec autant de souplesse que pour une personne. Rome, comme l'Église grandit, Rome est devenue de plus en plus une communauté. Rome, c'est tout ce qu'on veut. Et il ne faut pas oublier, alors pour nous catholiques, il y a le Saint-Père qui a infaillibilité en matière propre de foi. Pas autrement. Même pas infaillibilité au plan théologique. Infaillibilité au niveau de la foi. Le pape peut, théologiquement, soutenir une théologie qui n'est pas tout à fait au point. À ce moment-là, le pauvre théologien doit faire attention. De ne pas trop s'opposer. Et il est catholique et il reste avec une certaine indépendance de théologie. Et c'est ça qui est très, très mystérieux pour la théologie. Et dès le début, j'ai été comme ça pour saint Thomas. La question de la vision béatifique. Il avait sa théorie à lui qui n'était pas celle du pape. Il a dit, oh, ça n'a pas grande importance, cette vision béatifique. Oui, ça n'a pas grande importance, mais ça a une répercussion sur tout. La conception que vous faites de la vision béatifique, ça réveille sur tout. Il y avait ce dominicain qui voulait une conception de la vision béatifique communautaire pour aller jusqu'au bout de glorifier la communauté. La vision béatifique communautaire, je ne serai plus vision béatifique. Donc, c'est le point de vue de la finalité. Il faut se le rappeler souvent, très souvent, parce que c'est ce qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Je voudrais maintenant regarder le point de vue plus personnel du croyant comme tel. C'est-à-dire comprendre que la théologie réclame la philosophie. On l'a déjà vu hier. La théologie réclame la philosophie. Et réclame une philosophie qui maintient, qui découvre, qui explicite que mon intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu. Et que mon intelligence, tant qu'elle n'a pas découvert l'existence de Dieu, il lui manque une certaine certitude. Pas une évidence, une certaine certitude. Donc, au point de vue pratique, c'est très important. Alors, il faut maintenant regarder au point de vue personnel où se situe ma métaphysique. Comment elle est née ? Puisque elle est née en dehors de la vie chrétienne et catholique. La Providence a voulu ça. Et sûrement qu'il y a une raison. Hein. Tout ce que la Sainte Providence réalise, ça a toujours une raison. De fait, cette découverte très spéciale de la métaphysique telle que l'a fait Aristote, c'est avant la venue du christianisme. Alors on pourrait se dire c'est une préparation merveilleuse à la vie catholique. Le discours de saint Paul à Athènes, c'est bien ça. Si la Providence a voulu que la découverte de la métaphysique a été longue, ça n'a pas été tout court. La philosophie grecque a mis du temps à la découvrir. Il y avait un pas en avant, un pas en retard, petit à petit, on est arrivé à cette découverte d'Aristote et de Platon. Parce qu'au fond, pour qu'Aristote puisse arriver à la précision, à la maîtrise à laquelle il est arrivé, il fallait Platon. Ce serait très intéressant de bien montrer que sans Platon, qu'est-ce que serait devenu Aristote ? Sûr, Aristote n'a pas besoin de Platon, mais de fait, la Providence a permis et a voulu qu'il y ait Platon. Et pour nous, la Providence permet qu'il y ait un analogue à Platon, une philosophie hegélienne qui va très loin. Et la philosophie de Platon, comme la philosophie hegélienne, pourrait étouffer l'effort métaphysique. Et la philosophie de Platon, comme la philosophie hegélienne, très souvent étouffe l'effort de l'intelligence d'aller jusqu'au bout. On s'arrête à Platon. On respire avec Platon. Et c'est déjà tellement beau. C'est tellement extraordinaire. On respire avec Hegel. C'est tellement beau. ce Saint-Esprit que j'ai fait. La Providence a voulu que, de fait, Aristote, sa pensée, sa découverte de la métaphysique, de la philosophie première, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, de la philosophie première, se fasse avant la venue du Christ. Alors, il y a deux préparations à la venue du Christ. La préparation du peuple juif, la préparation purement intellectuelle de la Grèce. C'est deux préparations, deux dispositions tout à fait différentes, mais qui saisissent deux points de vue très importants de l'homme, le point de vue religieux, qui est si fort avec Moïse, qui est une force étonnante, le point de vue religieux chez un Israélite, et même encore aujourd'hui. Et quelquefois bien plus éclatante que chez un chrétien. C'est curieux. Il y a une espèce de splendeur du religieux. Il y avait Dieu qu'on ne nomme pas, mais devant lequel on s'incline. C'est tout l'esprit adoration du peuple juif. C'est par l'adoration que l'adoration Joachim et Anne. C'est par l'adoration de ce foyer juif exemplaire que Marie a pu grandir et a pu être celle qui, dans son attitude religieuse de foi à l'égard du Créateur, était capable de ce dépassement d'annonciation, ce dépassement prodigieux de l'annonciation, ce passage d'attitude religieuse profonde, vécue admirablement, vécue d'une façon extraordinairement complexe. Le nombre de préceptes qu'il y a au point de vue religieux, je pose un Israélite qui veut vivre vraiment sa vie de croyant, c'est extraordinaire. Ça saisit tout l'homme dans une armure extrêmement serrée et puissante. À tel point que l'armure étant tellement forte qu'elle remplaçait presque que le contenu, tellement était belle. Et c'est vrai, la loi est presque divine. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis, au point de vue intelligence, alors, la petite Grèce, Dieu a choisi ça. Ce petit pays. Très différent de la Palestine. Il l'a choisi pour le développement de l'intelligence. C'est tout à fait autre chose, hein. C'est l'aspect théoria, la contemplation. La vie religieuse conduit bien à la vie contemplative, mais la vie religieuse est quelquefois tellement forte qu'elle empêche la contemplation. Vous voyez ce que je veux dire ? On a déjà assez de peine d'être religieux, pas la peine d'ajouter. Alors, religieux prend tout. L'attitude grecque, donc le développement de l'intelligence, avec Platon. Platon dispose. Que serait devenu Aristote sans Platon ? Qu'on peut se poser et qui serait très intéressante. Que serait devenu Aristote sans Platon ? En soi, il n'a pas besoin de Platon. De fait, Platon est là. Et Platon a joué un rôle très extraordinaire sur Aristote. Pour lui permettre de découvrir la finalité dans toute sa pureté. Si Platon n'avait pas été là, le traité sur l'amitié dans l'éthique d'Aristote, le traité sur l'amitié, n'aurait pas pu prendre cette forme aussi affinée, aussi profonde, aussi merveilleuse. L'éthique ne s'achève pas dans la loi, mais dans l'amitié. C'est quand même très différent entre la loi et l'amitié. Les différences. C'est pour ça que dans la vie religieuse où la loi quelquefois l'emporte, l'amitié est mise très à côté. Rival et une rivalité très étonnante entre les deux. Causalité exemplaire, causalité finale. C'est une grande bataille. Hein. Grande bataille d'une C'est très étonnant de voir cette préparation à la naissance du Christ, à la vie apostolique du Christ. Préparation à la naissance Marie, préparation à la vie apostolique des pères de l'Église. Le développement de la théologie. Et il demande un développement de l'intelligence. Je crois que nous devons être très sensibles à ça. De fait, il y a toujours deux enracinements, l'enracinement religieux, l'enracinement, c'est pas l'enracinement là, l'exaltation de la théoria, de la contemplation. Il y a deux aspects très très forts. La théoria, comprendre ce que c'est que la contemplation. faut comprendre d'abord la contemplation au plan philosophique. Et la contemplation au plan philosophique est là pour aider à maintenir le primat de la contemplation au plan chrétien. De fait. Et cette contemplation, chez Aristote, s'est développée à partir de l'amitié. Et l'amitié a été le premier dépassement de la loi. Et ce dépassement de la loi a permis la contemplation. C'est très difficile de dépasser la loi. La loi, c'est quand même quelque chose de très très enraciné en nous. Et le christianisme n'est pas le développement de la loi. Le christianisme maintient la loi. C'est très important de voir que le christianisme maintient la loi. Pas un iota de la loi ne disparaît. Mais il y a un dépassement. Et ce dépassement philosophique se fait par l'amitié. C'est l'importance de l'éthique. C'est l'éthique qui exige la métaphysique. Alors là, vous voyez, la métaphysique n'est plus commandée par la découverte de Dieu. La métaphysique est commandée par la finalité propre de l'homme, une finalité personnelle. Tout le problème de l'homme, c'est que, au-delà de la phusis, de la nature, il y a le problème de la personne. Et le problème de la personne se noue en premier lieu par l'amitié et dans l'amitié et ensuite dans la contemplation. Il y a là un développement proprement humain. L'exigence de la métaphysique. Première exigence, connaître Dieu. Deuxième exigence, le développement de la personne au-delà de la nature. La métaphysique, tout de suite, me met au-delà de la nature. Et me fait découvrir la personne. Il y a en nous, en chacun d'entre nous, une nature plus ou moins puissante. Nous avons des ancêtres qui étaient plus ou moins intelligents. Le poids de la nature est très fort. C'est tout le poids de l'athéisme. C'est énorme, la nature. C'est quelque chose de très étonnant. On a beaucoup de peine à la dépasser. On a pu s'y installer. Et le développement des sciences et le développement de la nature. Qu'il faut bien saisir. Le développement des sciences, c'est le développement de la nature. Même le développement des mathématiques, c'est le développement de la nature. De la nature humaine. La nature humaine, elle est chez soi, parfaitement chez soi, dans le domaine des mathématiques et dans le domaine des sciences. Mais la nature, ça ne suffit pas pour expliquer ce problème très particulier de ce que nous sommes. Nous avons une nature, ça c'est évident. Je n'ai pas besoin de regarder mes ancêtres. Il suffit de me regarder pour comprendre qu'on a une nature. Aujourd'hui, c'est important, parce qu'au fond, il y a la grande tentation de refuser la nature. C'est la grande révolte humaine, ça. La grande révolte humaine, c'est d'avoir des ancêtres. Le poids des ancêtres. Alors, n'en ayant pas, soyons nous-mêmes. Nos ancêtres, c'est vieux, ils n'ont plus à parler, plus besoin de parler. C'est nous. Il y a une révolte très profonde contre la nature. La révolte la plus profonde actuelle, c'est la nature. C'est d'être déterminé d'une façon très nette, indépendamment de notre volonté, homme, femme, détermination nette. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'être homme, on n'a pas choisi d'être femme. Et c'est quand même quelque chose qui demeure toujours présent, la nature. On n'a pas choisi d'être homme, d'être un animal. Ça aurait été plus simple. Tandis que la nature chez nous, c'est pas commode. On est déterminé et on doit dépasser cette détermination. On aurait envie de dire cette détermination, mais oui, c'est vrai, mais je la dépasse. Et en tant que je dépasse, elle n'existe plus pour moi. Elle existe toujours. Ma nature, oui. Bon. Plus je vieillis, plus la nature vieillit. Plus la nature s'impose. Quand je suis dans la grande croissance, il y a une tentation, justement, de dépasser la limite. Parce que tout ce qui était avant est passé et nous sommes dans un monde nouveau. Et ce rajeunissement complet, constant, qu'on veut, c'est que la nature s'impose et la nature, elle vieillit. Il y a un vieillissement de la nature, un vieillissement de la nature humaine. Et que je ressens plus ou moins la nature. La nature appelle la loi. S'il n'y avait pas la nature, il n'y aurait pas de loi. C'est la nature qui appelle la loi. Mais s'il y a une prise de conscience assez rapide qui fait que je peux orienter ma vie au-delà de la nature, je l'oriente de telle ou telle manière. Et cette orientation que je prends montre qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà de la phusis, au-delà de la nature, et qui me permet de dépasser ma finalité propre, naturelle. il y a en moi quelque chose. Je découvre par le choix libre. Il y a en moi la naissance d'une liberté. Et ça, c'est pas la nature. Le choix me met en présence d'un acte personnel. Le premier acte personnel, c'est le choix. Et ce choix me fait dépasser ma nature. Ce choix me met seul en face d'un choix que je prends librement, d'une orientation de vie que je prends avec plus ou moins de conscience. Je suis plus ou moins déterminé par tout mon atavisme dans ce choix, mais le choix lui-même est de notre nature. À ce moment-là, apparaît en moi quelque chose de très particulier qui n'est pas ma nature. Je choisis. C'est la personne. Alors je crois, voyez, que c'est justement ce choix, l'apparition de la personne, qui est l'exigence de la métaphysique. Tant que je reste dans la nature, je reste dans la science. Et ça, ce serait très important de bien saisir l'universel qui fonde la science est au niveau de la nature. Alors que le choix libre et personnel, et apparaît comme quelque chose d'autre. Et c'est ce choix personnel qui réclame une connaissance nouvelle, une connaissance personnelle qui n'est pas universelle. Elle est personnelle, et elle est en même temps au-delà de l'universel. Alors, il y a là une expérience tout à fait particulière qui montre que mon intelligence est capable de saisir la réalité, non plus dans ce qu'elle a de commun, mais de saisir la réalité humaine dans sa propre personne, dans sa liberté. La métaphysique ne peut commencer que dans un choix personnel. Je veux connaître ce qu'il y a de propre à l'homme. Je veux saisir ce qu'il y a d'unique à l'homme. Les sciences me font connaître ce qu'il y a de commun à la nature. Nature végétative, nature sensible, nature intellectuelle, ce qu'il y a de commun. Ça va jusqu'à la logique. La logique est une connaissance naturelle. Tandis qu'au contraire, le choix est une connaissance personnelle y a dans le choix quelque chose d'unique. Dans un vrai choix, hein, il y a quelque chose d'unique. Puisque je m'oriente vers une fin que j'ai choisie. Je saisis donc quelque chose qui m'est personnel et qui, en même temps, assume ma nature. Il n'est pas contraire à ma nature, mais l'assume dans ce qu'elle a de plus elle-même, ma nature humaine. Ma nature humaine rejoint ma personne dans le choix. Et c'est ce choix, si je l'étudie bien, qui montre que j'ai une connaissance qui n'est plus universelle selon la nature. Universel, propre à la science, mais il y a quelque chose de ma personne. Et c'est quelque chose de ma personne qui fait que je ne peux pas rester au niveau nature. Je dois essayer de saisir ma finalité personnel, j'ai une intelligence personnelle et même mon caractère personnel se développe en premier lieu grâce à mon intelligence. Mon intelligence n'est pas premièrement comme intelligence universelle, elle est au contraire personnelle. Et là, ce pouvoir de saisir un principe, quelque chose de nécessaire dans toutes les réalités qui sont autour de moi et en moi-même, quelque chose qui s'impose à moi, la saisie des principes. C'est, je crois, cela qui nous permet de comprendre que je dois sortir du domaine scientifique pour entrer dans une nouvelle connaissance, qui est une connaissance métaphysique, qui est une connaissance première, plus radicale, qui n'est plus la fluidité des choses sensibles, qui n'est plus la nature des choses sensibles, mais qui est la saisie des principes, et non pas des lois, des principes. Les lois sont faites par les hommes à partir de la nature. Le principe, il est saisi dans la réalité existante, indépendamment des hommes. Et c'est là où mon intelligence se développe comme une intelligence personnelle qui saisit dans la réalité ce qu'il y a de plus profond, son être. Or, ceci, c'est très important pour voir la naissance même de la métaphysique qui se fait par rapport à la personne et la découverte de la liberté.